C'est bien d'être ensemble ce matin et de se rassembler autour de la parole. L'Église, c'est super, hein, parce que ça nous aide de toutes sortes de manières. Par exemple, ça m'aide ce matin, moi, à me rappeler que c'est l'anniversaire d'Élisabeth cette semaine. Voyez-vous comme c'est extraordinaire, s'aider les uns les autres, n'est-ce pas? Si vous voulez que je sois là la semaine prochaine. Non, c'est pour rire, mais quand même. C'est drôle comment l'Église peut de toutes sortes de façons, n'est-ce pas, nous appuyer, nous encourager, c'est certainement la moindre, mais quand même. La semaine dernière, Sonny nous a mis au défi de voir la parole pas seulement comme un pain de vie, le frigidaire, pas seulement comme une boussole personnelle. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Comment est-ce que je décide sur ceci ou cela? Il nous a aussi encouragé à ne pas voir la parole seulement comme une bouteille de pilules. Hein, quand ça va mal, découragé, il a bien souligné que la parole, c'est tout cela, c'est sûr, c'est un pain de vie, j'ai faim, j'ai besoin de manger. C'est une boussole, je suis perdu, Seigneur, oriente-moi dans mon quotidien. Et c'est aussi une bonne bouteille de pilule. Seigneur, je suis sur la déprime, j'ai besoin que tu me remontes, n'est-ce pas? Ou je suis sur le haut de la montagne, j'ai besoin que tu me calmes un peu. Mais on est encouragé de voir aussi le livre comme étant le récit du royaume et une invitation à s'insérer dans ce récit du royaume. Ce matin, je vous propose un texte qui parle vraiment de tout cela, qui nous parle du royaume, parce qu'il y a un roi qui arrive sur boulevard Gouin dans quelques minutes pour faire son entrée. Lisons la parole ensemble, Matthieu chapitre 21. Je vais lire avec vous ici parce que c'est pas la même traduction que ma propre Bible. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. « Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Alors, tout ceci arrivera afin que s'accomplisse ce que le prophète Zacharie, entre parenthèses, avait annoncé. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Prochain? Merci beaucoup. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Espérer, attendre, finalement voir. Être croyant, c'est beaucoup espérer, c'est beaucoup attendre, c'est espérer et attendre encore et encore plus pour finalement un jour voir celui que nous attendions. En ce dimanche qui viendra à être connu comme le dimanche des rameaux, le Messie rentre à Jérusalem sur un jeune âne. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, le Messie. C'est sûr qu'à l'époque, bien du monde n'y croyait pas. Mais il y avait ceux qui, comme nous aujourd'hui, croyaient que c'était lui, le Messie. Et pour eux, le moment était unique. Le moment était incomparable. Certains, ce jour-là, étaient venus pour adorer ce Messie, l'envoyer de Dieu. à ce moment précis dans l'histoire d'Israël. Ils étaient venus pour l'adorer. D'autres étaient venus pour le supplier. Hosanna, qui veut dire « Sauve-nous, Seigneur! Viens, change les choses! Répare ceci! Délivre-nous de cela! » Pour l'adorer, pour le supplier, on l'accueillait comme son roi. Pour ces gens-là, le doute était chassé. Cette foule-là croyait tout simplement que c'était lui, le Messie. Elle avait longtemps espéré, elle avait longtemps attendu, et aujourd'hui, elle voit, elle le voit. Qui parmi nous n'aurait pas aimé être là, ce jour-là, dans la foule, et voir Jésus arriver sur ce petit âne? En fait, cette foule-là, dans laquelle on aurait voulu prendre place, est au cœur de la doctrine chrétienne depuis 2000 ans. La Bible parle de cette foule. Elle enseigne que ce même Jésus, qui est venu publiquement, ouvertement, visiblement, reviendra encore au milieu de la foule. Il revient, il sera vu publiquement, ouvertement, visiblement, tout œil le verra, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Plus que cela, nous allons vivre ça ensemble, avec la foule de ceux qui croient. Ensemble, il n'y aura pas de place de privilège. Le pasteur ne le verra pas en premier, ni les anciens ensuite. Tous les disciples de la planète le verront au même moment. C'est cette doctrine de la foule, de la révélation publique de Jésus qu'on voit déjà dans ce dimanche des rameaux. Paul va écrire plus tard aux Thessaloniciens. Au chapitre 4, il va leur dire « Arrêtez de vous inquiéter pour ceux parmi vous qui sont décédés, parce que lorsque la trompette va sonner, ils vont ressusciter. Et ensemble, morts et vivants, on va le voir. C'est ensemble, toujours ensemble. Et l'Église, on est ensemble ce matin, comme rappel que c'est là qu'on rencontre le Seigneur. Et c'est ensemble que nous allons le voir. Voir le Sauveur, voir le Seigneur, c'est au cœur de l'expérience chrétienne. La Bible nous dit que c'est même au cœur de l'expérience humaine. Tous vont le voir. Nous ne faisons pas qu'en parler. Nous ne faisons pas qu'espérer. Nous ne faisons pas seulement attendre, nous ne faisons pas seulement croire, nous allons voir, nous allons le voir. Voilà la première vérité qui saute aux yeux dans ce passage de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus se laisse voir. Il n'en est pas un pour se cacher. C'est ce que la Bible appelle l'espérance ferme du croyant, que nous allons le voir. Nous adorons un Seigneur vivant et visible, bien que pour maintenant, nous ne le voyons pas. Mais peut-être dans 2 minutes, sur le boulevard Gouin. Les familles d'Église évangélique, comme l'Alliance chrétienne et missionnaire, ont toujours insisté sur cette vérité-là. Autrement dit, c'est au cœur de ce que ça signifie être un chrétien évangélique. Et dans notre confession de foi de l'Alliance chrétienne et missionnaire, on peut regarder la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le tout dernier item dans notre confession de foi dit ceci. Nous croyons en le retour en personne et visible du Seigneur Jésus-Christ et que ce retour est imminent. Et on va justement chercher le passage dans 1 Thessaloniciens 4. Nous croyons, comme toute église évangélique, qu'il revient en personne, lui-même, pas un prophète, il n'y en verra personne pour... C'est lui qui revient. Et ça sera visible. On vient d'en parler et c'est imminent. Imminent, ça veut dire à tout moment. C'est au cœur de ce que nous croyons. Pas seulement qu'il revient en personne et visiblement, mais ça pourrait se passer maintenant, à l'instant même. Il n'y a rien qui doit arriver. Son retour, avant son retour, il est imminent. Dans 2 minutes, dans 2 mois, dans 20 ans, dans encore 2000 ans, mais à chaque instant, c'est toujours imminent. En se lançant ce matin dans ce texte de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, en méditant, en préparant, il y a d'autres passages. C'est un problème de préparer un message sur un texte parce que on connaît la Bible et constamment on est interpellé par toutes sortes d'autres passages, toutes sortes d'autres vérités. Soudainement, j'entendais résonner d'autres paroles, celles-ci dites par Jésus une semaine plus tard, après sa rentrée à Jérusalem. Ces paroles qu'il dira après être sorti du tombeau. Il dit ceci, une promesse pour nous, mais il l'a dit à Thomas. Il le dit à Thomas lorsque Thomas le voit, lui. Vous vous souvenez de Thomas, il dit, il faut que je le voie, je ne croirai pas. Puis au moment même où il va rentrer sa main dans la côte de Jésus, Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais est-ce qu'il faut voir ou non? Est-ce qu'on est heureux de voir ou on est heureux de ne pas? Jésus dit là, heureux ceux qui vont croire ou qui ont cru sans voir. Et moi, j'ai souvent dit, Thomas, c'est mon meilleur associé, c'est mon préféré dans la Bible, parce que lui, il l'a vu. Puis ça me permet, moi, de dire, OK, mais si Thomas l'a vu, c'était vrai. Donc, je crois parce que quelqu'un d'autre a vu. Mais Jésus n'a jamais ridiculisé Thomas. Tout le monde devait le voir. C'était fondamental à ma foi et à votre foi aujourd'hui que plusieurs l'ont vu. Mais Jésus va dire, heureux sont ceux qui vont croire ou qui ont cru sans voir. Oui, madame. Amen. Vous avez raison. Vous avez raison. Merci. Absolument. Il est Dieu fait chair. Merci. Donc Jésus, quand il dit ça, Thomas, il sait très bien que dans les prochains jours, il va disparaître. Jésus va disparaître. Et il est bien conscient qu'il y a ceux qui devront croire sans voir. Et il dit d'eux, de nous, que nous sommes heureux, nous sommes bénis. Ceux qui auront cru avant de voir. Voyez-vous, bien que nous voudrions d'abord voir, et le voir nous est bel et bien promis, l'ordre normal des choses maintenant, c'est d'espérer, d'attendre, puis de voir. Et ça, je n'aime pas toujours ça. Croire avant, croire afin de vraiment voir, pas le contraire. Bien que le contraire, de voir et ensuite croire comme Thomas, c'est aussi une grande bénédiction. À choisir, moi, je serai dans cette foule pour voir Jésus descendre le mont des Oliviers et rentrer à Jérusalem sur un dos d'âne. Avec Élisabeth, j'y étais en 1995, sur le mont des Oliviers. J'ai marché sur la route que Jésus avait suivie. Je suis rentré dans Jérusalem par la porte de la ville, mais je ne l'ai pas vu. Il n'y était pas. Avec le texte des Évangiles dans une main et ma foi dans l'autre, je n'ai pu que l'imaginer sur ce chemin. Je continue donc à espérer, à attendre, afin de vraiment un jour le voir. Jésus revient, mais en attendant, c'est long. C'est long. Si vous trouvez que c'est long, sachez que c'est normal de trouver que c'est long. Dire qu'il faut dorénavant croire sans voir, ce n'est jamais réduire l'importance du voir. On vient de le voir. Plutôt, c'est dire à quel point sera merveilleuse et récompensée l'espérance, l'attente et la foi de ceux qui auront choisi de croire avant de voir. Ils sont heureux parce que quand ils verront, leur voir, notre voir, en sera un qui aura été préparé dans la terre fertile et féconde de l'espérance, de l'attente. Il y a ceux qui auront dit « Je ne croirai pas sans d'abord avoir vu. » Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent ça. « Je ne peux pas croire et je ne croirai pas sans d'abord voir. » Quand eux le verront, parce qu'ils le verront, ils ne seront pas bénis comme ceux qui se sont préparés des heures, des jours, des mois, des années, peut-être toute une vie, pour le voir. Il y a le voir qui attendait avant de croire. C'est le voir ordinaire et naturel. Il y a le voir qui est bâti sur un croire. Ce voir-là, c'est un voir extraordinaire. C'est un voir surnaturel. C'est le fruit de la grâce. C'est le voir qui est le fruit du croire du vrai disciple de Jésus. En quel état est ton croire ce matin? Fragile peut-être. Tiens-tu le coup malgré tout? Est-ce que tu espères toujours? Avec moi, est-ce qu'on se décide? Encore ce matin, de continuer à attendre, de faire confiance à celui qui a dit « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Quand Jésus dit ça à Thomas, c'est à toi qu'il pensait. C'est à toi qu'il pensait. C'est à moi qu'il pensait. La vie, elle est dure. Et quand j'ai préparé pour ce matin, la vie, comment puis-je dire que la vie est dure, sachant tellement bien que la vie de d'autres est tellement plus dure que la mienne? Mais je suis honnête quand je dis que la vie, elle est dure pour moi aussi. Ces défis, je les trouve énormes. Certains sont les suites de ma propre folie. D'autres fois, suite de la folie de d'autres. D'autres fois, c'est tout simplement le fruit d'un monde qui est sans Dieu et nous subissons tout ça. Mais la vie est dure. Ces défis, ce sont ces circonstances de nos vies qu'on n'aurait pas choisies, sûrement. La maladie, le chômage, la vieillesse, une immigration forcée, la fin d'une relation amoureuse, un décès, des enfants prodigues, la pauvreté, le crime, toutes ces circonstances que souvent on ne choisit pas. La vie, elle est difficile. Et comme la foule rassemblée aux portes de Jérusalem ce jour-là, nous aussi nous crions « Hosanna, sauve-nous Seigneur, interviens, fais quelque chose. » Hosanna veut dire « Sauve-nous Seigneur. » Le texte de ce matin, si on retourne en arrière, au tout début, dans Matthieu 21, c'est un texte qui est la parole de Dieu pour les gens là qui étaient là au moment même. C'est un texte qui est là pour l'Église quand Matthieu rapporte ce récit 30 ans plus tard et que les croyants ont ce texte. C'est aussi la parole pour moi et pour toi aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux en 2014. Je me sens un peu comme les gens dans cette foule. J'espère, j'attends, j'adore, je supplie, mais contrairement à cette foule, je ne vois pas encore. Je suis sur le bord du chemin, j'ai même coupé des branches, j'ai enlevé mes vêtements, je les ai déposés sur les nids de poules pour que la rentrée du roi soit ce que ça doit être pour un roi, mais le roi ne vient pas. Le roi n'est pas encore là. Je regarde à l'horizon et je vois rien. Et les circonstances sont difficiles. La souffrance physique pour plusieurs d'entre nous, elle lâche pas. Des relations brisées qui ne se réparent pas, la douleur qui demeure, des rêves qui ne se réalisent pas. Tu es découragé. Nous sommes découragés. Et nous sommes tentés de tout laisser tomber. Surtout d'arrêter d'espérer et d'attendre. Souvent, notre foi, elle est fragile. Les injustices sont nombreuses, souvent flagrantes. Mais quand je me permets d'être totalement honnête face à moi-même, je découvre que ma réalité est heureusement un peu plus compliquée que juste espérer et attendre pour un jour voir. Oui, il y a beaucoup d'espérance et d'attente, mais soyons aussi honnêtes. Il y a ici et là, parfois, des apparitions. Hein? Des apparitions, entre guillemets, où la grâce se présente. Un moment où j'arrive à voir, presque, pour un instant, le voir. Comme si dans l'obscurité, mon bien-aimé me visitait, puis il semble disparaître de nouveau. N'avons-nous pas ces moments-là? Sonny a peut-être eu un genre de moment lorsqu'il s'est retiré la semaine dernière pour un 24 heures. Ce matin peut être un de ces moments où on voit pour quelques instants qu'il est ici parmi nous, qu'il est avec moi. Il est avec nous. Nous prions les uns pour les autres comme on vient de faire. Pour que nous ayons davantage ces moments passagers où on voit. Moi, j'en ai besoin de vos moments passagers. Je veux les entendre. Une de mes plus grandes joies, c'est la plus grande joie en tant que professeur, c'est d'entendre dans la vie des étudiants, des étudiantes, ce que Dieu fait. Moi, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la confiance. Je suis bon pour espérer puis attendre encore 24 heures. C'est tellement bon. Quand Dieu répond à ses prières comme impossibles, c'est un moment d'apparition, comme si nous étions déjà à ce moment où toutes les requêtes seront répondues, où nous allons voir totalement et entièrement. La vie chrétienne est supposée en être une de petits voir passagers qui nous préparent pour le grand voir à la fin. Nous avons un passage, j'aimerais illustrer cela d'une manière qui semble être une parenthèse, puis ça semble être une parenthèse parce que c'est une parenthèse. Jacques chapitre 5, vous êtes malade? Appelez les anciens. Mais qu'est-ce que ça a à voir, les anciens? Qu'est-ce que Marc de Panique connaît de ma maladie? Pardon Marc, c'est ce que je me disais la dernière fois que j'étais malade. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Juste avant l'onction d'huile, ça parle du retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur, voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Saviez-vous qu'on appelle les anciens parce qu'on croit que le retour du Seigneur est proche? C'est de ça dont il est question ici, en partie. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Je saute quelques versets. Quelqu'un, parmi-vous, est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera la malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Cette invitation d'appeler les anciens quand je suis malade vient dans un cadre où on est invité à ne pas lâcher. Le retour du Seigneur est proche. Donc, t'es malade? Appelle les anciens. Je comprends pas. C'est quoi le lien? Tout à fait, et je suis pas sûr non plus de bien comprendre, mais voici ce que je comprends. Que l'onction d'huile est symbolique d'une onction assurée, d'une onction que nous avons déjà reçue dans le Saint-Esprit en tant que croyants. L'onction d'huile est symbolique d'une onction assurée, constante, qu'on a reçue et qu'on recevra dans toute sa plénitude lors du retour du Seigneur Jésus. L'onction, elle s'en vient, la pleine, totale onction, elle est presque arrivée. Pourtant, le Christ est déjà au milieu de nous. Déjà son royaume prend place, déjà son royaume se fait sentir, s'impose. Donc, j'appelle les anciens parce que je crois en la guérison ultime de toute maladie au nom de Jésus. Et je choisis de continuer à espérer, attendre pour le jour de voir complètement la main du Seigneur me guérir. J'appelle les anciens pour leur dire ça, que moi je lâche pas. Venez prier avec moi, en cas que je lâche. J'ai besoin de leur foi. Surtout au milieu de cette épreuve, quand je suis tenté de tout lâcher, même que le péché veut me piéger, j'ai besoin de l'Église. J'appelle les anciens, parce que je crois en la guérison ultime de mon corps. Mais deuxièmement, j'appelle les anciens parce que je crois que ma guérison immédiate est possible. Tout ce que le royaume nous promet pour l'avenir est possible maintenant. Possible maintenant. Souvent, la présence du Seigneur veut dire guérison maintenant. Quand le Seigneur va revenir, sa présence va imposer une guérison totale, complète, des corps glorifiés, transformés, spirituels. Mais déjà, j'appelle les anciens parce que je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur va intervenir. Parce que de toute façon, l'intervention, elle a commencé et elle va se compléter bientôt. Pourquoi pas aujourd'hui recevoir cette onction-là? J'appelle les anciens parce que je crois que Golgotha a pourvu au pardon de tous mes péchés, mais aussi que Jésus a porté en son corps, sur la croix, dans ses meurtrissures, toutes mes meurtrissures corporelles, toutes mes maladies. Il a tout pris sur lui. J'appelle les anciens parce que je crois qu'aujourd'hui, si Dieu le veut, il peut me guérir. Je suis dans l'attente. Je sais en quoi j'ai placé, en qui j'ai placé mon espérance. Au milieu de la souffrance, de la maladie, je suis dans l'espérance. Donc, c'est pourquoi j'appelle les anciens. On se rassemble, n'est-ce pas, le dimanche matin, pour la même raison qu'on appellerait les anciens. C'est pour tenir ferme ensemble. C'est pour croire que le Seigneur répond à nos prières des fois déjà maintenant. On se rassemble entre disciples de Jésus le matin, comme les autres dimanches, comme en semaine, pour déclarer les uns aux autres que malgré nos souffrances, malgré nos bobos, malgré nos découragements, nous continuerons cette semaine à espérer, à attendre le jour où nous allons voir complètement. Et quand je vous vois persévérer dans l'épreuve de la foi, vous ne savez pas à quel point je suis fortifié et édifié. Israël attendait son Messie depuis longtemps, celui qui lui donnerait son sens d'appartenance, sa gloire à Israël, son triomphe face aux nations et à leur Dieu. Aujourd'hui, aux portes de Jérusalem, jeunes et vieux, hommes et femmes, riches et pauvres, religieux et non religieux sont au rendez-vous. Celui qui vient de Nazareth arrive sur le dos d'un ânon, comme le prophète Zacharie l'avait prédit. C'est lui, le Messie sauveur. Et encore que le chemin soit trop raboteux pour mon roi, on les remplit les nids de poules, n'est-ce pas? Et on l'accueille comme le mérite notre roi. Oui, viens, viens nous sauver. Viens aujourd'hui, Seigneur. Viens changer les choses. Hosanna. Les années de ministère de Jésus tiraient à leur fin. On rentre dans la semaine, n'est-ce pas, sainte. Dans 5 jours, Jésus sera crucifié. Entre ses 30 ans et 33 ans, Jésus avait visité Jérusalem au moins à quelques reprises, peut-être même plusieurs fois. Mais cette visite sera sa dernière. On serait dans l'erreur de croire que des gens viennent interrompre ses plans, qu'il doit subir les actions des autres qui feront de ce roi l'objet injustifié et injustifiable de scandale et de honte en le crucifiant publiquement sur le calvaire, en dehors de la ville sainte. On pourrait penser que quelqu'un est venu bousiller ses plans. Mais non, l'évangéliste Matthieu est très clair. Il nous montre Jésus qui a décidé que maintenant la volonté du Père sera accomplie et que c'est maintenant. Cette visite ici, c'est la troisième, c'est la cinquième, je ne sais pas, mais cette fois-ci, allez me chercher un petit ânon. Je rentre sur un ânon. Je suis bouleversé de voir à quel point Jésus contrôle, décide. C'est lui qui mène. Notre texte dans Matthieu 21, il vient entre deux autres passages. Juste avant, Jésus, en montant de Jéricho vers Jérusalem, il guérit 2 aveugles. Incroyable! Les 2 voient! Puis juste après son entrée à Jérusalem, il va vider le temple et déclarer que la maison du Seigneur n'est pas une place pour se faire voler, mais c'est une place pour recevoir. C'est une place où tous doivent avoir accès librement. C'est une place même pour les nations. Le texte nous dit dans Luc ou dans Marc, maison de prière pour les nations. Et Jésus est scandalisé que la maison de son Père a toutes sortes de portes fermées à clé. Et qu'il faut payer pour rentrer là. Ce Messie-là, c'est celui-là qu'on veut, n'est-ce pas? C'est lui qu'on accueille, c'est lui qu'on laisse rentrer. Mais il nous déçoit profondément. Il va finir sur une croix. Je suis toujours surpris comment entre mon accueil de Jésus et ce qu'il fait après que je l'ai accueilli, c'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Il s'y prend de toutes sortes de façons. Et c'est plus tard en regardant que je vois comme c'était beau la façon qu'il s'est pris. Le dos d'un âne. Je ne me souviens plus où je suis, mais j'étais responsable avec Elisabeth d'un groupe de jeunes à Québec. On avait sorti une vingtaine de jeunes et on les a sortis pour faire une sortie à cheval dans une écurie, en campagne. On a eu tellement un beau temps. On était 20, puis il y avait 19 chevaux seulement. Mais un âne. Il y avait un âne. Qui voulait monter l'âne, vous pensez? Combien des jeunes ont dit, « Moi, je veux monter l'âne. » Non, non, non. J'ai dû monter l'âne. Et croyez-moi, une chance que je ne partais pas à la bataille, parce que c'est un animal de travail, l'âne. Hein? Pas un animal de victoire puis de conquête. Jésus choisit de monter pas seulement à dos d'âne, mais à dos d'ânon, comme c'est triste voir un Messie venir comme ça. Mais voilà, il change tout. Il redresse tout. Il corrige tout. Et il nous offre un royaume d'espoir, d'attente, de promesse, où on va le voir face à face. Un royaume d'humilité. Un royaume où ceux qui le suivent sont les plus humbles de la terre. Il résonne toujours en moi ce que ma maman me disait quand je suis venu au Seigneur. J'ai donné ma vie à Christ et pour les 15 ans qui ont suivi, ma maman me disait toujours, « Toi, tu te prends pour qui? Tu penses avoir trouvé la vérité? Il faudrait que tu sois un peu moins arrogant. » Je me disais, oh, je voulais qu'elle me voie comme Jésus dans son humilité et elle voyait que l'arrogance. On est toujours mis au défi en tant que croyant de ressembler à Jésus puis être des hommes et des femmes d'humilité. Je termine. Vous allez retrouver plusieurs fois dans les Écritures l'expression « notre bienheureuse espérance ». C'est notre bienheureuse espérance ce matin. L'espérance de le voir, c'est aussi l'espérance d'être délivré de tout ce qui nous retient. Et votre liste, elle est longue probablement. Pour vous et pour vos bien-aimés. Nous vivons croyant qu'il revient et que tout sera changé, mais nous vivons déjà comme si c'était déjà changé les choses. On vit comme si il n'y avait que le royaume de Dieu parmi nous. On vit comme des instruments de paix, de justice, de réconciliation, de patience, de douceur, même lorsque tout autour de nous nous dit « T'es fou de vivre comme ça. C'est pas possible. » Cet ami en prison qui me disait « Moi, je vais donner ma vie à Christ en sortant de prison parce que je peux pas vivre la vie chrétienne en prison. » J'ai l'impression des fois qu'on dit la même chose parce qu'on a nos prisons. Mais le croyant vit aujourd'hui, comme si c'était le jour du retour du Seigneur. Être disciple de Jésus, c'est patienter dans l'expectative du royaume dont les signes de sa présence sont abondants, mais aussi dont les signes de cette présence ne sont pas encore tout à fait là parmi nous. Attendre, c'est la foi en action. C'est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas encore, nous dit Hébreux. Israël attendait, et aujourd'hui, à Jérusalem, en ce dimanche des Rameaux, le Messie est arrivé. La célébration est lancée. L'attente pour eux était comme finie. Il est là, je le vois. Mais ensuite est venu le désappointement, le découragement, la désorientation, le doute. Et des fois aussi dans nos vies, ces choses-là se passent. On a besoin les uns des autres. Jésus a dit, juste avant de disparaître, d'être enlevé vers les cieux, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Heureux ceux qui croiront sans voir, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce clair? Oui. Hein? Est-ce ambigu? Non. Est-ce des mots difficiles à comprendre? Non. Pas besoin d'un doctorat. Est-ce parfois difficile d'y croire et de les vivre? Bien oui. Prions. Seigneur Jésus, tu avais tout prévu. Tu avais tout compris. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, sachant très bien qu'on ne pouvait pas fonctionner une seule journée comme tes disciples dans ce monde sans ta présence en nous. Seigneur Jésus, nous ressentons, nous savons et ressentons ta présence parmi nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait plutôt, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas cette confiance-là, je suis plein de doutes. Toi, Seigneur Jésus, qui as dit, heureux ceux qui croiront sans voir. Toi, Jésus, qui as promis d'être avec nous. Nous supplions que tu viennes déposer dans ses cœurs ta foi, cette confiance que toutes choses ont été pensées, prévues et auront lieu pour que ton royaume vienne et que tes disciples soient trouvés pleinement bénis et transformés. Seigneur, tu vois la liste de nos luttes, les défis. Et ensemble ce matin, nous déclarons que nous allons persévérer et que nous irons vers la croix et que nous allons méditer le prix, Seigneur Jésus, que tu as payé. Et nous allons célébrer le tombeau vide. Et nous allons déclarer à quiconque demande la raison de notre espérance que nous t'avons rencontré et que tu habites nos cœurs et que tes promesses sont justes et fiables. Seigneur, aide-nous à avancer ensemble. Aide-nous à ouvrir les portes de ta maison, de nos vies, de notre communauté, pour que les nations puissent venir y trouver place, pour que ton nom soit honoré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen.